J'ai pensé vous parler de deux femmes vraiment étonnantes du siècle dernier qui ont vécu en France et qui se sont consacrées vraiment à l'éducation. À l'éducation auprès des plus pauvres. C'est surprenant ce qu'au 19e siècle, il y a eu des femmes solides, des femmes qui se sont dressées devant la misère humaine pour la soulager. Des femmes qui ont cherché vraiment à instruire les plus pauvres et à transformer ce monde. On en a eu beaucoup ici, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, partout. L'Église a suscité toutes ces femmes au grand courage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Marie-Madeleine Postel, dont la fête survient un peu plus tard, mais je la mets aujourd'hui parce qu'elle va accompagner ainsi la bienheureuse Placide, en dépit de son nom masculin, n'est-ce pas, Placide Vielle, qui a été supérieure générale des Sœurs des Écoles Chrétiennes de la Miséricorde, fondée par Sœur Marie-Madeleine Postel. Ce sont deux vies simples, mais intéressantes et remplies de courage. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Tout d'abord, Sainte Marie-Madeleine Postel, P-O-S-T-E-L, elle est morte en 1846. Elle s'appelait Julie-Marie-Françoise, dans le monde. Julie-Marie-Françoise Postel, elle était la fille de Jean Postel et de Thérèse Levallois, qui devait devenir, donc, cette jeune fille, Sainte Marie-Madeleine Postel. Elle est née à Barfleur et a failli mourir en naissant, le 28 novembre 1756. Comme vous voyez, elle est morte très âgée, puisqu'elle est morte en 1846, ce qui lui donne 90-91 ans. Elle était si petite et si faible qu'on l'a ondoyée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on l'a baptisée très très rapidement. Ça n'avait pas été un baptême régulier. On appelle ça ondoyer. On l'a ondoyée donc sans retard. C'est une voisine qui a fait ça. Et puis, comme on tenait vraiment à ce qu'elle soit vraiment baptisée. Eh bien, imaginez qu'on l'a baptisée le soir même. Alors, elle a été baptisée deux fois dans la même journée, le jour de sa naissance. Ses parents étaient des paysans assez aisés, des gens honnêtes, quoi, des gens chrétiens, profondément. D'ailleurs, ils ont eu cinq autres enfants, dont l'un prêtre est mort en 1790, alors que Sainte Marie-Madeleine, sa sœur, avait 34 ans. Donc, à 5 ans, la petite Julie-Marie-Françoise, c'est comme ça qu'elle s'appelait dans le monde, a rencontré sur la route, on raconte ça, une petite gamine qui portait des haillons. Hein, ça se voyait. Moi-même, j'ai vu ça, vous savez, au début des années 30, on voyait ça à Montréal. J'en ai visité dans des maisons faites, je vous l'ai déjà dit, d'annonces de Coca-Cola et de choses abominables. C'était effrayant. Ces enfants vivaient sur le sol, glacé. Il y avait de la neige au pied des murs. En entrant dans ces maisons, ils faisaient en bas de zéro. Et les enfants étaient habillés de haillons, même de poches à patates. J'ai vu ça. Oui, oui, des poches à patates. La mère avait percé trois trous pour passer la tête et les deux bras. J'ai difficile à parler de ça sans être très ému. C'était des Québécois, des gens qui s'appelaient, je me souviens, une petite fille qui s'appelle Chantal de Repentigny, et qui vivait comme ça en 1931. Et alors, notre Julie, elle, voyant sa petite gamine à haillons, elle lui donne son manteau. C'était spontané, elle avait 5 ans. Et un autre jour, ce sont ses souliers qu'elle a donnés à un petit mendiant. Et sa mère, évidemment, bien juge que c'est pas très, très intelligent de faire des choses pareilles. Elle la réprimande. À l'école, ses premières études ne donnent pas l'idée de ses talents qu'elle cache, on dirait. Car à 11 ans, bien qu'elle était déjà monitrice, elle avait beaucoup de capacités, voyez-vous, mais pour apprendre, c'était pas aussi facile. Parce qu'à 11 ans, elle n'a pas été capable de signer. Elle a fait simplement une croix sur l'acte de baptême d'un de ses frères. Il y avait quelque chose qui clochait chez elle, hein, 11 ans. Et pourtant pas. Et pourtant pas. C'était peut-être un manque de formation, justement, qu'on donnait dans certaines écoles, dans les milieux loin des villes. Hein. Mais sa charité à cette petite fille éclate de toutes parts. Dans toutes les petites choses dont est faite la vie, c'est une sainteté simple. Elle quête pour les pauvres. Elle porte du bois et de l'eau aux infirmes. C'est des choses simples. Et je suis heureux de voir que beaucoup de jeunes ici à Montréal, de plus en plus, même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils vont pas à la messe, même si on n'est pas trop sûr s'ils sont encore catholiques, ont une fraîcheur et sont intéressés à s'occuper comme ça des pauvres, des infirmes et des gens les plus malheureux. Elles balaient leur maison aussi. Elles font leur feu. C'est pas facile de faire du feu hein, pour quelqu'un qui est malade. J'en sais quelque chose. Quand je suis arrivé à la Grande Chartreuse, dans ma maison, dans la cellule que j'occupais, là, une espèce de maison, il fallait que je fasse du feu, mais je n'en avais jamais fait de ma vie. Je n'arrivais pas et ma maison était froide, c'était glacial, c'était épouvantable. Vous savez, la Chartreuse, la Grande Chartreuse, c'est dans les montagnes, dans les Alpes, dans la neige. Hein. Et notre petite, donc, Julie-Marie-Françoise Postel était d'un caractère exubérant, ce qui attirait beaucoup d'attention, puis elle était très populaire. Mais elle réussit à se maîtriser, et puis elle montre, dit-on, c'est dans le texte de sa vie écrit au moment de sa mort, elle montre une gravité qui, sans exclure la grâce, s'interdit la brusquerie et les rires. Hein, c'est la conception de l'époque. Rire n'était pas très très bon, très bien vu au début du 19e siècle et tout le long du 19e siècle. Hein. On se posait même des questions à savoir si Jésus avait déjà ri. Et la Sainte Vierge aussi. J'espère bien qu'ils ont ri. Hein. Avec Saint Joseph, tous les trois ensemble, j'espère. Sa maturité à cet enfant était précoce, hein, je vous l'ai signalé un peu. À 9 ans, d'ailleurs, elle fait le vœu de chasteté, ce qui est assez courant chez bien des enfants pieux à cette époque. Et pendant des siècles, la chasteté était portée au-devant de tout. La spiritualité du mariage manquait, à mon avis, d'approfondissement. On n'avait pas assez approfondi ce que c'était que l'amour conjugal, le mariage, le fait d'être père et mère, d'enfants que Dieu nous donne. Et c'est grandement dommage. Mais en soi, il n'y a rien de mal à ce qu'elle ait fait à 9 ans un vœu de chasteté, quoique je trouve ça un peu jeune. Je ne sais pas si elle se rendait compte de ce qu'elle faisait. Elle fait aussi le vœu, chose beaucoup plus admirable, de dévouement au salut du prochain. Elle était vraiment précoce par rapport à la charité. Et le curé de la paroisse, en dépit des prescriptions qui lui venaient de son évêque, l'admet à la première communion. Je vous rappelle, elle ne savait pas écrire. Le curé prétend, lui, que son cas ne crée pas de précédent, car il déclare, et ce sont ces paroles qui ont été notées, « On ne reverrait pas de sitôt une autre Julie Postel. » Cette future sainte Marie-Madeleine Postel, de son nom de religion, Marie-Madeleine, était déjà une enfant absolument remarquable. Non seulement cherche-t-elle à s'occuper des pauvres, mais en secret, ses parents découvrent qu'elle se mortifie. Souvent, elle ne mange que du pain sec les jours de jeûne. Et il y avait beaucoup de jours de jeûne à l'époque. Il n'y en avait pas autant. C'est pas tous les jours, faut pas exagérer, mais il y en avait, disons, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeûne, mon Dieu, on a ça quoi? Le mercredi décembre, le vendredi saint, c'est à peu près tout. C'est tout ce qui reste. Un jour, elle entend un sermon. Alors, elle décide après ce sermon, de faire quelque chose qui va vous faire rire aujourd'hui, mais je vous assure, je voyais moi ma mère faire la même chose quand j'étais jeune, et puis les gens faisaient ça dans les années 40. Elle pèse ses tranches de pain à l'aide d'une balance de son invention, Et quand on lui interdit de pratiquer un tel régime aussi sévère de jeûne, elle se sert d'une pierre comme d'oreiller. Ce sont des excès que, heureusement, elle va calmer avec le temps. Un jour, en sortant de classe, elle est toujours une enfant, quoi, une jeune fille, elle rencontre dans un pré deux soldats qui sont prêts à se battre en duel. Alors elle s'agenouille. Et elle fait un geste absolument étonnant. Elle présente un crucifix à ces deux hommes, deux soldats, qui, stupéfaits, mais comme ils étaient catholiques au fond de leur cœur, ils ont été touchés par la grâce. Alors ils se sont réconciliés, se sont embrassés. L'école de son village natal, de Barfleur, est vraiment insuffisante, hein? Je vous l'avais un peu signalé tout à l'heure. Puis grâce à la générosité d'une bienfaitrice, bien Julie peut entrer à l'abbaye de Valognes, qui reçoit et éduque des jeunes filles de conditions qui sont plutôt à l'aise, hein, conditions aisées. Et bientôt, les bénédictines de Valognes, devant les progrès rapides de Julie, qui devant sa piété, bien, elles essaient de la garder comme jeune moniale, mais Julie retourne chaque année dans sa famille. Et elle ne fait pas part à qui que ce soit de ses résolutions du fond de son cœur. En 1774, elle a 18 ans. Ses études sont achevées. Elle revient à Barfleur, son village natal. Et elle y ouvre, imagine à cet âge-là, un pensionnat. Elle avait réussi à apprendre plusieurs choses, comme vous voyez, en l'espace de quelques années. Elle y donne un enseignement pratique, en fondant ce qui sera plus tard une école ménagère. Ça rappelle les écoles ménagères qu'on avait ici dans les années 40. Pour les reposer de l'écriture puis du calcul, elle apprend à ses élèves à coudre, à tricoter aussi, ce qui les intéresse beaucoup. Elle a un ascendant moral remarquable déjà, et sa piété est ardente. D'ailleurs, elle assiste à la messe, elle communie chaque jour. Ce qui est un peu surprenant, parce que là, nous sommes à la fin du 18e siècle, vers les 1700 quelque chose, hein, et elle communie chaque jour, ce qui était très rare. Elle organise peu à peu un atelier de broderie, et c'est tout à fait dans l'esprit du temps. Les ateliers de broderie existaient même au début de notre siècle. Hein. Et ce travail est mêlé de, évidemment, de causeries, d'anecdotes, de chants. Elle réagit contre la mode des robes très, très décolletées. Et elles étaient très, très décolletées. Et si vous regardez des dessins, j'en ai chez moi, des dessins de l'époque Empire, là, il y a deux siècles, ou presque, les robes sont extrêmement décolletées. On voyait la moitié des seins. Hein, et paraît-il que parfois, hop, il y en avait un qui sortait, dit-on dans les textes de l'époque. C'est un peu très décolleté, comme vous voyez. Alors, elle lutte contre ça. Elle porte des vêtements sombres, d'ailleurs. Elle porte un fichu qui monte assez haut autour de son cou. Elle est déjà presque une religieuse dans le monde. D'ailleurs, elle continue à soigner les pauvres aussi. Et pour elle-même, un seul repas par jour lui convient. Jamais de viande ni de poisson. Elle est végétarienne, quoi. Elle mange des légumes, souvent du pain sec et de l'eau. Un menu qu'elle va garder jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Hein? Puis je vous le rappelle, elle est morte à 90 ans, quelque chose comme ça. Ça peut encourager les végétariens. Ils pourront invoquer Sainte Marie-Madeleine Postel. Alors survient la Révolution. La Révolution française. Hein? Julie, elle s'appelle Julie, elle n'est pas religieuse encore, elle s'écarte du curé jureur. Un curé jureur, c'est un curé qui s'est soumis aux lois des révolutionnaires. Elle cache les objets du culte dans sa maison. Elle y reçoit là des prêtres qui sont fidèles. Dans un petit oratoire minuscule qu'elle a aménagé, juste sous son escalier, puis elle y garde le Saint-Sacrement. Elle passe des nuits dans cet oratoire à lire des maîtres de la vie spirituelle puis les pères de l'Église. Alors, on l'autorise à se donner elle-même la communion avec de petites pincettes d'argent. Pourquoi des pincettes d'argent? Parce que, à cette époque, il était impensable que quelqu'un, autre qu'un prêtre ou un diacre, mais plutôt un prêtre, qui a eu les doigts, c'est-à-dire le pouce et l'index de la main droite consacrés. Oh, c'était quelque chose, hein, on les enveloppait d'un linge sacré avec de l'huile et l'évêque consacrait ses deux doigts qui devaient tenir de chaque main l'hostie, main droite et main gauche. Hein. Personne d'autre n'avait le droit de toucher à une hostie. C'était comme ça jusqu'au concile. Et je me souviens, j'avais réalisé une émission à la télévision où on montrait une messe qui était célébrée à Valleyfield, où le prêtre donnait la communion à des jeunes gens de 18-20 ans dans la main. Ça avait fait scandale, car c'était le nouveau règlement, mais on acceptait difficilement ça. Alors donc, elle avait, elle, l'autorisation de son évêque de se donner elle-même la communion, mais, je spécifie, avec de petites pincettes d'argent. Elle avait aussi la permission de porter le Saint-Sacrement à des mourants. En 1798, elle est admise parmi les tertiaires de Saint-François. Ça pourrait faire plaisir au troisième ordre des franciscains. Quand l'apaisement se fait après toute cette révolution, elle continue à catéchiser, c'est-à-dire à enseigner le catéchisme, à former des enfants. Elle est alerte, elle est cordiale. Elle est même stimulante en dépit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'elle portait des vêtements sombres puis un fichu, comme on disait à l'époque, haut montant, c'est-à-dire qui entourait vraiment le cou. Hein. C'est pas parce qu'elle est stricte par rapport, disons, à la chasteté, à son corps, qu'elle est pimbèche et rêche et un peu stupide, pas du tout. C'est une femme de caractère et une femme joyeuse. Et elle passe sans froisser personne au milieu de toutes sortes de rivalités entre les évêques et les prêtres, puis des querelles de village, car il faut dire qu'il y a malheureusement souvent dans notre pauvre Église des petites querelles ici et là. Et on en a vu, n'est-ce pas, avec les fondatrices comme Mère Marianne, ici qu'a fondé les Sœurs de Sainte-Anne, puisqu'elle a souffrir d'un prêtre, etc. C'est triste à dire. Heureusement que la très grande majorité des prêtres ont le cœur ouvert. Hein. En 1804, une de ses élèves, qui était mourante, Marie Dadure, âgée de 8 ans, lui découvre de façon prophétique son avenir de fondatrice. Elle est étonnée. Soudain, la municipalité de Cherbourg, c'est dans le nord de la France, n'est-ce pas, c'est un... Cherbourg, c'est très connu. Cette municipalité demande des institutrices pour les pauvres. Alors, notre Julie Postel part. Elle n'a pas de ressources. Mais elle dit en riant, la providence, le travail et la pauvreté. Puis, elle agite les doigts. Vous savez comment on fait quand on veut montrer qu'on a de l'argent dans les doigts, entre les doigts. Elle dit en riant, voilà mes rentes, c'est-à-dire le travail, la pauvreté, mais surtout la providence, c'est-à-dire Dieu lui-même. Elle est blagueuse, mais elle est confiante, c'est la foi qui l'a fait blaguer. Et l'aumônier de l'hospice de Cherbourg loue une maison. Alors Julie a déjà 49 ans, elle a vieilli, on l'appelle la Sainte Demoiselle. Une ancienne élève de Barfleur, son village natal, puis deux autres filles se joignent à elle. Alors là, le vicaire général approuve et encourage la communauté naissante, qui veut s'occuper des pauvres. Et le 8 septembre 1807, elles sont quatre à prononcer leur vœu de religion sous le nom de Pauvres filles de la miséricorde, mais elles vont changer de nom. Pauvres filles de la miséricorde. Et Julie a 51 ans. Comme quoi on peut fonder, même à cet âge-là, hein? Faut pas désespérer. Elle prend le nom de Marie-Madeleine, comme je vous ai dit, qui va lui rester. Donc, les pauvres filles de la miséricorde demandent une chapelle et un aumônier. Avec l'autorisation d'instruire deux fois par jour les enfants pauvres, puis de visiter les malades. Leur règle dit silence, obéissance prompte, absolue, et j'aime bien le dernier mot, et joyeuse, une obéissance joyeuse, pas une obéissance où on grogne. Ça change tout l'atmosphère d'une communauté. De toute façon, ça change tout. Quand on est joyeux devant les épreuves, les difficultés, même la mort, ça change tout. Alors, comme nourriture, ces sœurs-là mangent de la soupe ou du pain sec et de l'eau. Pas beaucoup. Pour ameublement, elles mettent de la paille sur le plancher. C'est tout. La nuit du jeudi au vendredi, elles passent en prière, comme dans bien des communautés, même aujourd'hui. Dans des nouvelles communautés, ça se pratique. Chaque soir, notre mère Marie-Madeleine Postel prolonge un peu ses veilles. Elle travaille pour les malheureux. Et elle pratique l'oraison. Ceux qui m'ont jamais entendu depuis près d'un an, l'oraison, c'est ce silence que l'on fait en présence de Dieu, où on se met vraiment en présence de Dieu, qu'on prend conscience que Dieu est là. Et dans un silence presque constant, on reçoit cet amour dont Dieu nous inonde. Il faut faire attention, ça se pratique plutôt sous la direction de quelqu'un ou en lisant des ouvrages saints, intelligents et sérieux sur cette question. Ils s'en vendent très beaux dans les librairies religieuses, de plus en plus d'ailleurs. Car l'oraison se pratique beaucoup aujourd'hui, à cette fin du XXe siècle. C'est répandu comme une traînée de poudre. Alors finalement, il y a 200 fillettes qui viennent en classe, qui apprennent la couture, la dentelle, la broderie, le tricot. Vous direz, elles apprennent rien, quoi. C'est un ouvroir, enfin. Cette fondatrice a organisé un ouvroir pour les jeunes filles. Ce sont des jeunes filles très, très pauvres. Et les postulantes sont nombreuses pour devenir des religieuses. Mais tout à coup, les anciens ordres qui étaient disparus à la Révolution renaissent. Les Sœurs de la Providence rentrent à Cherbourg. Et la mère Postel, bien, elle veut éviter la rivalité, donc elle quitte Cherbourg. Alors, elle s'arrête d'abord à Octeville, puis à Tamerville, où l'accueil est parfait, dans une propriété du duc de Plaisance, Le Brun, grand dignitaire de l'Empire. C'est des nouveaux ducs, ça, qui ont été faits par Napoléon. Hein. Mais c'est là trop de bonheur, finalement. En peu de temps, 5 religieuses qui meurent. On mourrait facilement, hein. Puis viennent tout à coup des intrigues locales que lui crée l'institutrice de l'endroit, des notables, le curé. Alors là, la mère Postel décide de vider la place. Elle part pour Valognes. Mais il y a les bénédictines, les sœurs de la charité. Alors des novices se retirent. Et la communauté se réduit à 6, finalement. Alors là, la mère Postel décide de retourner à Tamerville, et c'est la misère. On a ce vieux texte, « On ne mangeait et que des pommes de terre. » Comme le curé d'Ars, hein, qui mangeait des pommes de terre toute la semaine, ça doit être épouvantable. Et par grâce, bien, on obtient de reprendre l'école. Alors les sœurs reprennent l'école. En 1817, la famine sévit. Là, les religieuses organisent des soupes populaires, et l'année suivante, le préfet de la région décrète que le brevet est obligatoire. Il y a 62 ans, la mère Postel se prépare donc et réussit à passer cet examen pour obtenir son brevet à 62 ans comme éducatrice. Alors les sœurs sont réduites à 4, puis brusquement, à l'heure où tout semblait désespéré, les recrues se présentent. Puis la mère Postel guérit instantanément du cancer une de ses filles. Alors là, vraiment, elle fait parler d'elle et en 1832, cette mère Postel a 76 ans. Alors on quitte Tamerville pour Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'est là vraiment que cette congrégation va rayonner, où l'on a acquis une vieille abbaye bénédictine en ruine. Mais pour l'achat, on manque même de quoi payer le notaire. Alors on reçoit pourtant des orphelines, des indigentes. Et les sœurs, pour vivre, travaillent au champ, au jardin. Elles se lèvent à 3 heures en été. On dit le rosaire en épluchant les légumes. Et lors d'une visite de l'évêque, la mère Postel lui présente la religieuse que, prophétiquement, elle voit devoir lui succéder et qui a alors 20 ans. C'est sœur Placide Viel, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais je vais continuer après la pause. Nous poursuivons avec Sainte Marie-Madeleine Postel, cette religieuse fort équilibrée, qui vient d'un milieu très simple, très pauvre, et qui fait des choses à un âge avancé et qui sont surprenantes. Je viens de vous dire qu'à 62 ans, elle passe son brevet. Le brevet pour enseigner. C'est assez extraordinaire. Alors, je vous avais dit que, en terminant tout à l'heure, lors d'une visite de l'évêque, la mère Postel lui présente la religieuse que prophétiquement elle voit devoir lui succéder, qui a alors simplement 20 ans. Et en 1837, il y a 24 sœurs et novices, et la fondatrice a 81 ans. C'est alors que le nouveau supérieur fait prendre aux filles de la miséricorde les constitutions de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, hein, le fondateur des frères des écoles chrétiennes. Alors, dans ces constitutions, on signale qu'il y a l'instruction gratuite aux pauvres. Alors, les sœurs, à la fois enseignantes et hospitalières, dépendront directement de Rome. La mère Postel demande à rester sacristine, à ne plus voir de médecin vu son grand âge. Elle couche sur deux planches en croix. Et comme bien des saintes, c'est curieux, elle porte le cilice et même un corset de fer. Elle se prive de nourriture du mercredi saint à Pâques, c'est-à-dire pendant tout le carême. Elle se prive de nourriture. J'espère qu'elle en prend quand même un peu, mais il semble qu'elle n'en prenait pas et qu'elle survivait fort bien. Le 21 septembre 1837, 14 anciennes et 10 novices prononceront leurs vœux d'après les nouvelles constitutions. Et là, le 13 octobre 1838, l'année suivante, une ordonnance royale reconnaît l'institution des sœurs de la miséricorde. Le noviciat est nombreux. Tous reconnaissaient à la fondatrice des qualités exceptionnelles, une lucidité merveilleuse dans le choix des vocations, ce qui est extrêmement important. Et cette mère Postel, avant de mourir, a eu la joie de fonder 37 maisons en peu de temps. L'esprit qui anime son œuvre, eh bien, c'est la règle, les vertus religieuses, et surtout la méditation quotidienne de la Bible. La mère Postel insiste sur le travail, se dépense elle-même jusqu'à épuisement. Elle a gardé d'ailleurs une âme jeune, pleine d'énergie. Sa mémoire est heureuse, elle a un jugement solide, et toujours d'égale humeur et d'une charité dans laquelle il n'y a pas d'ombre, c'est une charité constante. D'ailleurs, il suffit de l'écouter, c'est très beau ce qu'elle dit, ce sont des paroles qu'on a gardées d'elle. Il faut tout sacrifier pour rendre le prochain heureux. Faire le plus de bien possible en se cachant le plus possible. Une humilité qui parle est suspecte. Je ne désire que le strict nécessaire, et encore faut-il le gagner par le travail de nos mains. Obéir, c'est aller au ciel sur les épaules d'autrui. C'est un peu curieux. Obéir, c'est aller au ciel sur les épaules d'autrui. Alors, jusqu'à sa dernière heure, elle est la première au travail et à l'église. Elle est la dernière à en sortir. Le découragement lui paraît une forme de l'incrédulité pour elle. Se décourager, c'était incrédule. Elle dit son rosaire en allant et en venant. Elle récite aussi le grand office, comme les moines. Jamais de feu dans sa chambre. À 4 heures du soir, c'est son unique repas. Pendant ses crises d'asthme, à quelqu'un qui s'inquiétait, elle répond « Je suis bien, puisque je suis comme le bon Dieu veut. Je suis bien, puisque je suis comme le bon Dieu veut. » Alors elle prévoit l'avenir, elle multiplie les pains. Vous allez dire « Mais non, c'est pas possible. » Eh oui, c'est possible. Elle guérit les malades. À 90 ans, sa vue, son ouïe, sa démarche sont excellentes. Autour d'elle, il y a 150 professes, 20 postulantes. Et le 14 juillet 1846, elle reçoit l'extrême onction. Le lendemain, le 15 juillet, elle meurt. Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Et les miracles ont été nombreux sur son tombeau. Elle était déclarée vénérable le 31 mai 1903, bienheureuse le 22 janvier 1908, elle a été canonisée en 1925, le 24 mai. Alors, si je vous en ai parlé, c'est que je serai peut-être en vacances le 15 juillet, j'aurais pas pu aller fêter surtout le 16 juillet. Je n'aurais pas pu vous en parler, je préfère vous en parler tout de suite, puisque c'est la fête aujourd'hui de la bienheureuse Placide Vielle, cette jeune sœur de 20 ans, qu'elle voyait comme sa celle qui allait lui succéder. Bien oui, la bienheureuse Placide Vielle. Placide, c'est le nom de ce jeune moine qui, un des premiers bénédictins à suivre Saint-Benoît. Je vous rappelle que nous parlons ici du presbytère de l'église Saint-Benoît, non loin du métro Sauvé, au coin de Meilleur et Fleury, dans le nord de Montréal. Vous écoutez présentement Radio Ville-Marie, c'est l'émission Rencontre spirituelle, où l'on parle de vie de saint, mais aussi de vie de gens qui ont marqué le monde. Comme demain, je vous parlerai de Max Jacob, ce grand poète juif du début du siècle, qui était le pape, si on peut dire, du cubisme, qui a été celui qui a découvert Picasso. C'était un grand ami d'Apollinaire, etc. Je vous parlerai donc de Max Jacob demain. Il est mort comme un saint, d'ailleurs. C'est un juif. Donc, la bienheureuse Placide Vielle, supérieure générale des sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde, morte en 1877, c'était la huitième fille d'un cultivateur du département de la Manche, à Quetchou. Quel étrange nom, Quetchou. Elle s'appelait Eulalie Victoire Jacqueline Vielle. Elle est devenue Placide, un nom d'homme en religion. Elle est née le 26 septembre 1815. Sur une ferme. Quand elle a eu fait sa première communion, ses parents ont voulu qu'elle apprenne à coudre. Elle avouait plus tard qu'elle n'était pas douée, mais qu'elle cassait les aiguilles. Alors, elle avait d'autres qualités, puisque ses frères, qui pensaient qu'elle serait fort utile à la ferme, ont été très déçus quand elle s'est décidée à entrer chez les sœurs de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ces sœurs dont je viens de vous parler, où se trouvait déjà depuis longtemps, là, sa tante Marie. Mais elle va avoir des difficultés avec sa tante Marie. On était en mai 1833. Deux ans plus tard, le 1er mai 1835, Eulalie Vielle a reçu l'habit religieux et le nom de sœur Placide. Je vous rappelle, c'est le disciple de Saint-Benoît. Saint-Placide. Hein? Il y a Saint-Maur aussi, M-A-U-R, les deux disciples. Hein? On voit ça dans les texte de Saint Grégoire le Grand, que nous allons célébrer dans une semaine le 12. Je vous raconterai la vie de ce grand pape Saint Grégoire le Grand, qui serait celui qui a donné son nom au chant grégorien, Grégoire le Grand. Alors, notre Eulalie Vielle a été placée à la cuisine dans le couvent. Mais qui la dirigeait? C'était sa tante Marie, qui était très énergique et très exigeante. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'accuse de faire des faveurs à sa nièce. Et après une retraite, qui a été pour elle une dure épreuve, sœur Placide a été admise à la profession en 1838. Ça arrive souvent, ça, que les jeunes sœurs ont des problèmes. On les éprouvait à l'époque. Je ne sais pas si on fait ça encore. Je trouve ça un peu malheureux, moi. C'est pas comme ça qu'on forme le cœur de quelqu'un. La fondatrice de la congrégation, Sainte Marie-Madeleine Postel, dont je viens de vous parler, avait alors plus de 80 ans. Et malgré une résistance physique extraordinaire, comme on l'a vu tout à l'heure, bien, elle pensait à sa succession et sans s'inquiéter des réflexions des sœurs anciennes, elle avait décidé que sœur Placide avait les qualités nécessaires. Hein, elle l'avait prévu, alors que sœur Placide n'avait que 20 ans. Alors elle la présente, comme je vous ai dit, à l'évêque, comme son héritière. Elle la prépare surtout à ses tâches futures. Et l'instruction primaire de sœur Placide avait été bien rudimentaire. Elle n'avait pas appris grand-chose. Elle ne savait guère lire et écrire. C'était un stage assez court, mais intensif à l'école normale d'Argentan qui lui a permis de compléter le peu d'instruction qu'elle avait. Elle a passé ensuite dans les emplois les plus divers. Elle dirige la fondation d'une maison, Notre-Dame-sur-Vire. Puis elle va à Avranches, puis elle est revenue à la maison-mère de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Là, elle surveille les travaux de construction de l'église et en 1842, elle est chargée des 50 novices. 50 novices. Alors donc, elle devient contracteur et maîtresse des novices. Et dans la nuit du 24 au 25 novembre 1842, le clocher de l'église s'effondre. Elle avait manqué à quelque chose, peut-être, on ne sait pas, ou l'architecte. Alors, c'est un incident vraiment malheureux. Mais ça fait pas de victime. Mais ça contribue à aggraver la situation financière de cette jeune communauté, toujours qui est en difficulté assez facilement. Alors, elle est résolue à sauver son œuvre, cette sainte Marie-Madeleine Postel, la supérieure. Puis elle décide qu'il faut faire appel à la charité. Alors, elle confie la mission, qui est bien délicate, de quêteuse, à Sœur Placide, qui part pour Paris le 5 janvier 1844. Et voyez comment elle est, cette Sœur Placide. Quelle femme! Elle va directement solliciter une audience de la reine, oui, de la reine Amélie à Paris. Elle est bien reçue. Une telle recommandation lui permet d'entreprendre toutes sortes de démarches. Et en même temps, elle organise à Paris le couvent de Notre-Dame de Consolation. Elle se ménage si peu qu'elle tombe malade de fatigue, sans pourtant s'arrêter. Sainte Marie-Madeleine Postel meurt, on le sait, le 15 juillet 1846, je vous l'ai dit. Et comme elle l'avait voulu, bien les élections, qui ont lieu le 5 septembre 1846, portent à sa place Mère Placide. Cette promotion n'est pas goûtée de tout le monde. La nouvelle supérieure générale rencontre la maison-mère, une opposition irréductible qui est menée surtout par qui? Bien, par sa tante Marie et par le chapelain, oui, l'abbé Le Renard, il portait bien son nom. Et profitant du prestige que leur confère leur ancienneté, bien ce prêtre et sœur, la tante Marie, cette sœur, usurpe les prérogatives de la supérieure générale à un point complètement incompréhensible. Ils vont jusqu'à ouvrir les lettres qui lui sont adressées et à y répondre sans même la consulter. C'est terrible, hein? Ce qui peut se passer dans la tête de certaines personnes, prêtres et religieuses. C'est étrange, mais heureusement que c'est pas toujours comme ça. Pensons surtout à cette bienheureuse Placide Vielle et puis à Sainte Marie-Madeleine Passée. Pensons aux saints et pas à ceux qui ne le sont pas. Alors, il n'était pas dans le caractère de Mère Placide, qui était âgée de 31 ans seulement, de conquérir l'autorité qui lui revenait. Quels qu'en soient les résultats, d'ailleurs, une bataille n'aurait pas manqué de créer des dissensions dans la congrégation. Alors, Mère Placide préfère temporiser en continuant, malgré son titre de supérieur général, la mission que lui a confiée la fondatrice Sainte Marie-Madeleine Postel. Elle se remet donc en route pour quêter, pour faire connaître la congrégation, et même pour amener des postulantes, puis fonder des maisons. Et en même temps, elle conduit des négociations vraiment difficiles pour obtenir l'approbation de sa congrégation par le gouvernement français et par le Vatican aussi. En 1849, elle se rend à Froschdorf pour voir le comte de Chambord. C'est pas n'importe qui, le comte de Chambord, hein? C'est l'héritier. Ce long et pénible voyage soulève des commentaires que Mère Placide juge inutile de prendre au sérieux. Elle ne répond pas. Une femme intelligente qui sait éviter les disputes. C'est peut-être la plus grande qualité qu'on peut retenir de cette bienheureuse. Le 28 août 1856, l'église de Saint-Sauveur-le-Vicomte peut enfin être consacrée. On a refait le clocher. C'est un triomphe pour Mère Placide d'avoir réussi à mener à son terme cette construction difficile et qui a coûté fort cher. La mort de sa tante Marie, qui lui créait tant de difficultés, elle meurt le 13 mars 1857, met fin à toute cette situation très bizarre de supérieur général qu'elle avait. Alors, Mère Placide Vielle a alors 42 ans. Elle devient enfin vraiment supérieure générale. Elle montre que sa prétendue inexpérience n'existait que dans des imaginations de sa tante et de cet abbé le renard. Elle fait le voyage de Rome. Elle est reçue en audience, cette fois-ci, par le pape Pie IX. Le 19 mars 1859, elle obtient pour sa congrégation le décret de louange, qui arrive le 29 août suivant. Et là, à la fin de l'année 1859, elle se rend en Westphalie. Ce voyage prépare une fondation allemande, la maison d'Heiligenstadt, qui est ouverte vers Noël 1862, puis Mère Placide-Vielle vient la visiter en mai 63. Là, les maisons d'Allemagne sont fermées lors du Kulturkampf, puis finalement rouvertes. En France, la congrégation se développe sans arrêt. Et durant le généralat là, de Mère Placide-Vielle, eh bien, le nombre des maisons passe, imaginez, de 37 à 105. Et celui des religieuses de 150 à plus de 1000. Que de dévouement. Alors, ne reculant jamais devant un voyage, Mère Placide surveille, puis elle dirige avec fermeté ses maisons. Elle sait au besoin les défendre. Quand les chapelains, les prêtres de la chapelle Survire, veulent prendre la maison des sœurs, mais ces prêtres-là se heurtent à une opposition si irréductible qu'ils doivent abandonner leur projet. Alors l'idée directrice de Mère Placide est de garder intact l'esprit de la fondatrice Sainte Marie-Madeleine Postel. Elle ne veut pas que la communauté perde quelque chose des vertus ou même du charme des débuts. Elle qui avait si souvent dû quêter, elle aimait donner. Et elle le faisait généreusement. Et durant la guerre de 1870, vous savez, il y a eu une guerre terrible entre l'Allemagne et la France en 1870, elle accueille sans hésitation les malades, les blessés. Et même un miracle va récompenser son imprévoyance. Pendant 6 mois, et c'est authentique, on peut ne pas y croire si on veut. Pas obligatoire. On peut être catholique sans croire à ça. Mais je vous assure, les documents sont là. Pendant 6 mois, le lait ne manque jamais, quel que soit le nombre de ceux qu'il fallait servir. C'est curieux, cette multiplication du lait, du pain, que l'on voit dans bien des maisons religieuses comme ça. Elle veille surtout à conserver à la communauté son caractère accueillant. Alors, Mère Placide Vielle veut que les sœurs puissent s'y épanouir librement. Avec joie. Et un jour, elle rencontre 3 de ses sœurs, de sa communauté, qui, venues pour se reposer à la maison mère, ont cueilli des pommes dans le jardin. Alors, loin de les en blâmer, elles n'avaient pas l'autorisation de cueillir des pommes. Et vous savez que c'était strict dans ce temps-là, hein? On cueillait pas des pommes dans un jardin d'une communauté, quand même, quand on était membre de la communauté. C'était comme ça. Alors, loin de les en blâmer, la bienheureuse Placide-Vielle cherche à les mettre à l'aise, puis elle leur dit « Servez-vous, servez-vous, vous êtes chez vous. » Ce qui était à l'époque extrêmement spécial, vous allez dire, j'attache de l'importance à des détails. C'est vrai, mais c'est un détail qui nous montre qu'en dépit de l'esprit coincé qui peut exister à certaines époques, il y a toujours eu du monde pour réagir et pour avoir de l'allure, et pour être des chrétiens vrais. Des catholiques ouverts, des religieuses intelligentes, des religieux qui ont une tête sur les épaules, des prêtres qui ont le cœur à la bonne place, des évêques qui savent vraiment être de vrais évêques. Ça a toujours existé. Alors avant d'avoir atteint la vieillesse, elle ressent les effets du surmenage qu'elle s'est imposé. Alors ses jambes la font souffrir, et c'est dur quand les jambes souffrent. Quand on est attaqué au mollet et dans le bas des jambes, qu'on a de la difficulté à se déplacer, c'est très, très dur. Elle a des crises d'asthme aussi qui la contraignent à s'arrêter. En 1876, elle doit renoncer à retourner une fois encore à Paris. Il lui est impossible d'écrire au 1er janvier de l'année suivante. elle sent que c'est la fin. Le 2 mars, elle réclame l'extrême-onction et elle meurt le 4 mars 1877, 120 ans presque. Le Saint curé d'Ars avait un jour déclaré que la fondatrice des sœurs des écoles chrétiennes de la miséricorde, Sainte Marie-Madeleine Postel dont je vous ai parlé, ben il avait déclaré que c'était une sainte et que celle qui lui avait succédé, sœur Placide Vielle, suivait parfaitement ses traces. C'est le curé d'Ars qui avait affirmé ça. Or, il avait bien raison. La mère Placide Vielle a été béatifiée par le pape Pie XII le 6 mai 1951. Et maintenant, juste un mot pour vous parler du bienheureux Barthélemy des Martyrs, un dominicain qui était archevêque de Braga. C'est sa fête aujourd'hui. Il est mort en 1590. C'est un Portugais qui s'appelait Fernandes. Et c'est une des gloires de l'Église du Portugal. Je sais qu'il y a des Portugais qui m'écoutent. Il est né près de Lisbonne en 1514. Il avait fait profession, donc, chez les Dominicains en 1529. Il a enseigné pendant plus de 20 ans au couvent de Lisbonne puis de Batala. En 1551, il a été nommé, à 37 ans, maître et définiteur. Le neveu du roi Jean III, dont je vous ai déjà parlé, l'a eu quelque temps comme précepteur au Portugal. Le pape Paul IV, très soucieux de nommer des évêques qui ont du zèle, le choisit en janvier 1559 comme archevêque de Braga. D'ailleurs, en décembre 1555, 4 ans plus tôt, le cardinal d'Armagnac, qui était très réputé, notait que les cardinaux créés par ce pape étaient des inconnus, en partie des moines, en partie des théologiens. Or, s'il n'était pas un inconnu dans son pays, Barthélemy des Martyrs, qui était son nom, était moine et théologien, homme de doctrine, et un administrateur solide, éprouvé. Il a pris part aux sessions du Concile de Trente qui avait été convoqué par Pie IV. Il a collaboré au décret sur la réforme du clergé. De retour à Braga, il a travaillé dur à réformer son clergé. Il a réuni en 1567 un concile provincial. Il a bâti un séminaire, puis a fait la visite de tout son diocèse. En 1580, il y a eu une invasion des Castillans qui a interrompu l'œuvre de cet évêque. Les Espagnols ont conquis le Portugal. Alors, il s'est démis de ses fonctions. Il se retire au couvent Sainte-Croix à Viana do Castelo, où il est mort le 16 juillet 1590. En 1845, il a été béatifié par Grégoire XVI. Il a laissé un ouvrage très lu, traduit en français, abrégé des maximes de la vie spirituelle, recueilli des écrits des pères, de l'Église. Et puis il a publié aussi une règle de vie pour les évêques d'après les pères de l'Église. Il a publié un catéchisme en portugais, une somme des conciles, des notes sur les psaumes, toutes sortes de demandes qu'il voulait présenter au concile à Trente, des documents sur le concile, et toutes sortes de manuscrits. C'est donc un dominicain instruit, averti, un évêque remarquable et qui est une des gloires de l'Église du Portugal. Je le rappelle, les Portugais le vénèrent profondément. Je vous ai annoncé pour demain que je vous parlerai de Max Jacob, ce juif qui est mort, tué par les nazis en 1944, je crois. Or, cet homme pratiquait la méditation. Il méditait chaque jour et ça a été publié chez Gallimard, Méditation religieuse, avec une belle préface de l'abbé Morel, Robert Morel.
Ce livre de Max Jacob est un des beaux livres de ma bibliothèque depuis bien longtemps. J'ai ça depuis 1948. Je l'ai lu souvent. Et il dit, dans ses notes sur les méditations, « Depuis 30 ans, je n'ai pas passé un jour sans écrire ma méditation. J'ai donné une à une ces feuilles et, paraît-il, aidé ainsi à des conversions. » Une journée sans méditation est une journée d'irritation, de gaffe, de mauvais travail et de contrariété. J'en ai eu l'expérience les jours où je n'ai pu la faire. La méditation, dit-il, passe par l'intelligence, par l'imagination, par le raisonnement. Cependant, elle n'a pas pour but de trouver des idées, elle a pour but d'ébranler le cœur, d'amener des conversions quotidiennes, des progrès, de modifier la conduite vers le bien, ou si son but est-il un surcroît de conviction. C'est Max Jacob, ce grand ami de Picasso, de Guillaume Apollinaire, le pape du cubisme, cette forme d'art remarquable du début du siècle.